VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les procureurs de la Cour pénale internationale, la CPI, vont faire appel de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, ont-ils écrit dans un document de la Cour consultée aujourd'hui par l'AFP. Ils ont cependant déclaré qu'ils accepteraient une remise en liberté dans un pays membre de la CPI, excepté la Côte d'Ivoire, si le risque de fuite peut être atténué en imposant une série de conditions. M. Gbagbo et M. Blé Goudé, qui étaient accusés de crimes contre l'humanité, ont été acquittés mardi par les juges de la Cour qui ont ordonné leur mise en liberté immédiate. Les juges de la CPI ont justifié leur décision en expliquant que l'accusation ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve conformément aux critères requis par la justice internationale. Les forces de sécurité kenyanes ont mis un terme ce matin à l'attaque des islamistes somaliens Shabab contre un complexe hôtelier de Nairobi au terme d'un siège de près de 20 heures. Le président Uhuru Kenyatta, qui a donné la nouvelle lui-même, a assuré que tous les terroristes ont été éliminés. Les détails avec Anne Alberson.
Je peux vous confirmer que l'opération de sécurité au complexe Dusit s'est achevée il y a environ une heure et que tous les terroristes ont été éliminés, a déclaré le président Uhuru Kenyatta lors d'une conférence de presse. Il a noté que l'attaque a fait 14 morts et un nombre non précisé de blessés. Plus de 700 civils ont été évacués, selon lui, du complexe depuis le début de l'attaque jusqu'aux petites heures du matin. Le nombre total de djihadistes n'était pas clair dans l'immédiat. Une source policière a indiqué de son côté que deux assaillants ont été tués mercredi matin au terme d'un échange de tirs prolongé. De son côté, une source à la morgue a indiqué à l'AFP que 15 dépouilles ont été enregistrées. 11 Kenyans, un Américain, un Britannique et deux personnes dont la nationalité n'a pas pu être établie dans l'immédiat. Des sources policières avaient elles aussi fait état d'au moins 15 morts. Les Shebab somaliens, groupe lié à Al-Qaïda, derrière l'assaut du centre commercial Westgate ayant fait 67 morts en 2013, ont revendiqué très rapidement l'attaque de mardi.
Le pasteur Ivan Mawarire, figure de la société civile au Zimbabwe, a été arrêté aujourd'hui par la police à son domicile de Harare. Cette arrestation survient au troisième jour d'une violente grève générale contre la hausse des prix du pétrole. Idrissa Seydoudia.
Porte-drapeau des manifestations antigouvernementales de 2016, M. Mawarire a appelé à soutenir la grève lancée par le principal syndicat du pays, grève qui a tourné en fronde politique contre le président Emmerson Mnangagwa. La police en armes a encerclé le domicile de M. Mawarire en début de matinée. Le pasteur en a été extrait deux heures plus tard jusqu'à un fourgon. Ils affirment qu'il a incité à la violence par le biais de Twitter et des réseaux sociaux, a déclaré son avocate Béatrice Mutetwa aux journalistes présents. Le principal syndicat du Zimbabwe a appelé à trois jours de grève générale après l'annonce samedi soir par le président Emmerson Mnangagwa d'une forte hausse des prix du carburant dans un pays dévasté par la crise économique. De violentes manifestations de colère ont éclaté depuis lundi dans tout le pays, notamment dans les deux plus grandes villes du pays, Harare et Bulawayo. La police a sévèrement réprimé ces manifestations, faisant au moins trois morts et de nombreux blessés. Au moins 200 personnes ont été arrêtées.
L'opposition comorienne se lance en rang dispersé et sans trop d'illusions dans la course à la présidentielle anticipée imposée par le chef de l'État sortant Azali Assoumani, donné largement favori d'un scrutin taillé sur mesure à ses ambitions. Comme promis avec le succès de son référendum controversé de juillet, le président élu en 2016 a remis en jeu avant l'heure son mandat de 5 ans et convoqué les électeurs le 24 mars et en cas de second tour le 21 avril 2019. En cas de succès, l'ancien putschiste pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029. À Washington, il est 6h04.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon à ce micro. La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand, connue pour sa farouche défense des victimes d'agressions sexuelles et ferme opposante au président Donald Trump, a annoncé mardi soir qu'elle se lançait dans la course à la présidentielle américaine de 2020. Son entrée en piste confirme l'accélération du rythme des candidatures du côté des démocrates où le terrain s'annonce très chargé. Julian Castro, ex-ministre de Barack Obama, Tulsi Gabbard, une jeune élue de la Chambre des représentants et la sénatrice Elizabeth Warren, poids lourds parmi les candidats démocrates, ont déjà fait part de leurs ambitions présidentielle. La première ministre britannique Theresa May affronte aujourd'hui une motion pouvant faire tomber son gouvernement. La motion intervient au lendemain du désaveu des députés britanniques qui ont rejeté à une majorité écrasante son accord de sortie de l'Union européenne. Ce vote historique a plongé le Royaume-Uni dans le flou quant à son avenir à 2 mois et demi du Brexit prévu le 29 mars. Quelles seront les conséquences de ce vote? Eric Manirakiza, adjoint à Paris, l'économiste et directrice adjointe de l'IRIS, Sylvie Matelli.
C'est un rebondissement de plus et qui nous met encore plus dans l'incertitude quant à ce qui va se passer. Il y a quelques mois, on aurait pu penser que l'accord rejeté, ça voulait dire un Brexit dur, c'est-à-dire un Brexit sans accord. C'est plus du tout le cas depuis la décision de la Cour européenne de justice qui donne la possibilité à Theresa May, et dès la semaine dernière, il y a des députés qui appelaient Theresa May à saisir cette possibilité, de stopper le Brexit. Alors, si elle le fait, elle le stoppera provisoirement. Il faut qu'elle se décide avant le 29 mars. Elle va demander un délai à l'Union européenne avant de sortir de l'Europe. Bien évidemment, l'incertitude par rapport à ça, c'est la période que pourrait durer ce délai avant la sortie. Et puis l'autre incertitude, c'est est-ce que les pays européens et la Commission européenne vont accepter de renégocier et est-ce qu'il y aura quelque chose à renégocier? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a plus de Brexit en fait.
Entre-temps, l'opposition travailliste a introduit une motion de censure.
Oui, tout à fait, pour destituer Theresa May. Il faut se souvenir que les conservateurs avaient déjà fait la même chose au mois de décembre et qu'il y avait sur les 300 conservateurs, il y en avait 100 qui s'étaient prononcés pour la motion de censure et puis 200 qui étaient restés fidèles à Theresa May. Dans le cas du Parti travailliste, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'il y a peu de chances qu'ils arrivent à véritablement gêner la Première ministre et l'obliger à partir.
Quelles sont les conséquences d'une sortie sans accord et surtout les relations entre Londres et Bruxelles?
On a beaucoup écrit, on a beaucoup entendu de choses sur les conséquences d'une sortie sans accord. Simplement, en fait, on n'en sait rien parce que ça ne s'est jamais produit. L'avantage de l'accord, c'est quelque part, ça donnait du temps. C'est-à-dire au 29 mars avec l'accord, tout restait comme avant. Et puis petit à petit, dossier par dossier, on négociait les conditions pratiques de la sortie et au fur et à mesure que les négociations dossier par dossier étaient abouties, on sortait. Et donc finalement, pendant le Royaume-Uni, on aurait mis des mois à sortir, au cas par cas, au fur et à mesure qu'un accord de bon fonctionnement, de bonne relation était trouvé. Dans le cas d'une sortie sans accord, ça veut dire que le 30 mars au matin, les Britanniques se réveillent, ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais alors rien n'est dit. Et on ne sait absolument rien sur la façon dont vont se régler un certain nombre de choses. C'est-à-dire, quelle va être la politique commerciale du Royaume-Uni? Au 30 mars, ils ne sont plus dans l'UE, donc ils ne bénéficient plus de la politique commerciale de l'Union européenne. Quelles sont leurs relations avec les pays de l'Union européenne déjà, et puis avec le reste du monde? Parce qu'il faut savoir que tant qu'ils sont dans l'UE, c'est-à-dire jusqu'au 29 mars, ils n'ont pas le droit de négocier des accords d'échange ou de libre-échange avec d'autres pays. Comment ça se passe en douane? Est-ce qu'il y a des papiers à remplir ou pas? Est-ce qu'il n'y a finalement aucun mode d'emploi qui existe? Et c'est cette absence de mode d'emploi qui va rendre très compliqué l'ensemble du quotidien des Britanniques et probablement un petit peu des Européens également, parce qu'on ne sait pas du tout comment vont se gérer des relations qui jusque-là étaient complètement fluides parce que dans l'Union européenne.
Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'Institut des relations internationales à Paris. Les Kurdes de Syrie rejettent l'instauration d'une zone de sécurité sous contrôle de la Turquie dans le nord du pays. En guerre, a indiqué mercredi à l'AFP un haut responsable de l'administration semi-autonome mise en place par cette minorité. Le président américain Donald Trump avait récemment appelé à la création d'une zone de sécurité de 30 km en Syrie. Et puis, en Irak, plus d'un quart des soldats étrangers, majoritairement américains, stationnés dans le pays, se sont retirés en 2018, ont indiqué les autorités irakiennes, un mois après l'annonce des États-Unis de retirer leurs soldats de Syrie et de se servir de l'Irak comme possible base. Fin 2017, l'Irak avait déclaré la victoire sur le groupe État islamique, chassé de tous ses centres urbains après 3 ans de campagne des troupes irakiennes appuyées par une coalition internationale menée par les États-Unis. Le groupe djihadiste continue toutefois de mener des attaques à travers le pays. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous en compagnie de la VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.